RBA FM, Auvergne-Limousin.
Notre territoire est un formidable écrin qui recèle de véritables pépites, de véritables trésors. À Champagnac, dans le Cantal, il en est un qui vaut le détour. Magnifique témoin de notre histoire, c'est le pigeonnier de la Vendesse. Alors une association a été créée dans le but de le restaurer, de le préserver. Je reçois aujourd'hui pour en parler le président de cette association, monsieur Jean-Claude Duport. Bonjour monsieur Jean-Claude Duport, bienvenue ici.
Bonjour et merci de nous recevoir dans votre station de radio.
C'est avec plaisir, c'est la première fois que vous venez, j'espère que ça ne sera pas la dernière.
Eh bien je l'espère aussi.
En fonction de l'évolution des travaux de restauration que vous avez entrepris, nous allons y venir. Et vous êtes accompagné de monsieur Lafarge, monsieur André Lafarge, vous êtes trésorier de l'association. Bonjour monsieur
oui,
Lafarge.
Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux auditrices, aux auditeurs, parce qu'il faut y penser.
Le bonjour est passé. Votre association qualifie ce pigeonnier du XVIIe siècle comme un bijou architectural. Est-ce pour cela qu'il était nécessaire de créer un mouvement de sensibilisation autour de ce patrimoine bâti, monsieur le président?
Oui, effectivement, il faut monter et mobiliser beaucoup de personnes autour de cet événement, puisque la rénovation de ce pigeonnier demande beaucoup d'efforts, beaucoup de participation, beaucoup d'argent aussi, on en reparlera plus tard. Donc forcément, il faut mobiliser énormément de tous les côtés, que ce soit au niveau des habitants de la commune et autour de la commune, et aussi au niveau des collectivités, donc des médias et de la presse.
Depuis que votre association a été créée, est-ce que vous avez le sentiment que les gens s'approprient, entre guillemets, ce bijou du patrimoine?
Oui, de plus en plus. Ça a été un peu timide au départ, il faut bien le reconnaître, les gens ne sont pas toujours enclins, puis il y a tellement d'associations, mais là, on se rend bien compte quand même qu'il y a un certain engouement pour ce pigeonnier de plus en plus. Et j'espère qu'on va aller de plus en plus loin, d'ailleurs, et aboutir d'ailleurs à cette rénovation grâce justement à la mobilisation de tout le monde.
On rappelle qu'un pigeonnier ou colombier était destiné à l'élevage des pigeons, à la fois pour la consommation ou pour l'élevage des pigeons voyageurs. Un pigeonnier assurait alors pour le domaine un apport important en nourriture, mais également en engrais, figurez-vous. Alors, quelle destination avait celui de la Vendesse?
Celui de la Vendesse était surtout pour la colombine. Donc la colombine, c'est le petit nom sympa qui a été donné à l'époque pour la fiente de pigeon.
Oui.
Un pigeon peut produire jusqu'à 60 grammes par jour, ce qui fait que vous faites le calcul avec 2000 pigeons, ça fait pas mal de fiente à mettre sur le commerce. Donc cette fiente était stockée, séchée et réemployée dans les terrains agricoles du domaine de la Vendesse les jours de pluie pour pouvoir fumer le terrain.
Oui.
À savoir que ça ne marche qu'une fois. Ce n'est pas de l'engrais qui est perpétuel. Ensuite, ça servait aussi à la chair, puisque 500 pigeons arrivent à produire 300...
Oui, parce qu'il y avait combien de pigeons, selon vous, sur le pigeonnier de la Vendesse?
Sur le pigeonnier de la Vendesse, il y en avait 360.
Oui, quand même.
Environ. Donc, 360 pigeons produisent à peu près 200 pigeonneaux par semaine, qui sont comestibles, qui sont consommables,
oui,
au bout de 4 à 5 semaines.
Et pour le courrier?
Et pour le courrier, je ne pense pas que celui de la Vendesse
avait cette destination-là.
Le sujet au courrier. À l'époque, quoique du temps de la noblesse, il est possible, évidemment, qu'ils s'en soient servis. Mais c'est vrai qu'ils avaient une destination aussi pour le courrier, la plupart des pigeonniers de France, notamment. Il faut savoir aussi qu'il y a encore un pigeonnier en France qui appartient à l'armée française. Pourquoi, on ne sait pas, mais il est toujours en activité.
Ah, et, secret défense?
Secret défense, probable. Mais bon, c'est beaucoup moins cher que les rafales ou, ou les drones. Et bon, peut-être un peu moins rapide, mais voilà.
Messieurs, en chiffres, quelles sont les dimensions de cette pépite du XVIIe siècle? Monsieur Lafarge, vous n'avez pas encore parlé, à part vous être présenté,
oui,
on ne vous a pas entendu.
Les dimensions, c'est un édifice qui est circulaire déjà. Certains pigeonniers sont rectangulaires ou forme de carré. Là, on a un édifice circulaire qui fait à peu près, on va dire, 3-4 mètres de diamètre et qui doit faire 6 mètres de haut, quoi, hors toiture, hein, puisque la toiture aujourd'hui est malheureusement effondrée. Donc, il y avait à l'intérieur ce qu'on appelle des boulins. Les boulins, ce sont des petits trous dans la paroi où nichait justement un couple de pigeons. On a découvert, donc, quand on l'a nettoyé, que le sol était totalement dallé, qu'on n'avait pas imaginé puisque c'était tout recouvert.
Justement, quels sont les matériaux qui ont été utilisés à l'époque pour la construction, l'élaboration de ce pigeonnier ?
C'est vraisemblablement de la pierre locale, de toute manière, de la pierre, un bâti de pierre à la chaux, et puis dessus une coiffe, disons une toiture avec une charpente circulaire, une entrée pour les pigeons, donc qui était vraisemblablement entre le haut du mur et puis la toiture, donc pour laisser le passage aux pigeons. Une porte qui permettait donc l'accès pour aller chercher la colombine et autres. Et il semblerait aussi qu'il y ait eu un étage, disons, pour pouvoir accéder sur les deux niveaux, quoi. Enfin, un rez-de-chaussée, si on peut dire, et puis un premier niveau.
Monsieur Duport, vous avez une entreprise de couverture. Est-ce que c'est... comment dirais-je, un avantage, ça, pour la restauration de ce pigeonnier ?
On pourrait penser qu'il y a un lien de cause à effet, évidemment, mais nous, on est surtout des passionnés du fait que, bon, toute l'équipe, d'ailleurs, de nos adhérents sont des gars qui travaillaient dans le bâtiment. Donc, il est vrai que ça aide certainement à vouloir continuer un petit peu à porter notre pierre à l'édifice, un peu tard peut-être, mais à rénover un certain nombre de bâtiments comme ça, oui.
Vous, personnellement, monsieur Duport, qu'est-ce qui vous a attiré ? Vous l'avez toujours connu, j'imagine ?
En fait, je suis arrivé ici, moi, dans les années 80, et quand j'ai vu ce pigeonnier qui se délabrait, j'en suis tombé amoureux tout de suite.
Ouais.
J'ai dit, c'est dingue, c'est pas possible de laisser tomber cet ouvrage. Et les années ont passé, bon, il a fallu penser à autre chose, et faire sa carrière. Et puis maintenant, l'heure de la retraite est arrivée, et puis voilà, j'ai rencontré d'autres passionnés, donc André, voilà, et puis on a travaillé main dans la main un petit peu, et on s'est dit, pourquoi pas, il faut qu'on se lance, il faut qu'on essaye de faire
quelque chose. C'est grâce à des gens comme vous que le patrimoine résiste et qu'il résiste autant. On peut rappeler comme ça au passage, puisque c'est sur notre secteur et puis c'est un patrimoine phare de notre territoire, le château de Val. S'il n'y avait pas eu à l'époque Monsieur Georges, le château de Val tombait en décrépitude et heureusement qu'il a pu fédérer autour de lui et de son projet de rénovation suffisamment de gens, comme vous le faites finalement.
Oui, bien sûr, il faut bien quelques dirigeants pour cela, mais avant tout, c'est les donateurs qui vont faire la grosse part du boulot, puisque sans eux, bon, ben voilà, on peut mettre en place, mais on ne fera rien. L'argent restant...
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir suffisamment mobilisé ou il reste encore beaucoup de travail?
Il reste beaucoup de travail en matière de mobilisation, beaucoup de travail.
Pigeonnier, je le rappelle, datant du XVIIe siècle. Depuis 1670, plus précisément, ce pigeonnier nécessite de gros travaux de remise en état. C'est un coût qui s'élève à combien d'euros, selon vous ? On va donner la parole au trésorier, monsieur Lafarge.
Les chiffrages qui ont été faits tournent autour de 50 000, voire au-delà, parce que bon, les évaluations, c'est bien de les faire, mais après, il faut tout mettre à plat. Et effectivement, il y a quand même un gros travail, enfin déjà un premier travail de maçonnerie, puisque même si on l'a protégé aujourd'hui, le couronnement, c'est-à-dire le haut des murs, c'est bien abîmé. Il y a à peu près 30 à 40 cm, on évalue à peu près 30 à 40 cm, qui ont roulé dans les pentes de la prairie. Bon, il faut retrouver ces pieds. Et puis il est remonté, donc déjà un premier travail de maçonnerie pour reconstituer l'ensemble. Et puis après, c'est vrai, c'est un gros travail de charpente, puisqu'une charpente de ce type en arrondi, qu'il faut travailler avec des bois, on va dire nobles, puisqu'il faut...
C'est presque un métier de compagnon, ça.
Peut-être pas jusque-là, mais enfin, il faut avoir un bon savoir-faire, quoi. Et avoir des bons matériaux, puisque je pense que la reprise de la charpente, à part le chêne, ce serait dommage d'y mettre autre chose si on veut rester dans l'authenticité, si on peut dire. Et ensuite, le travail, donc, de repose des lauzes, qu'on retrouve à l'intérieur, puisque donc, tout s'est éboulé à l'intérieur, mais enfin, qu'il va falloir trier, qu'il va falloir renettoyer, qu'il va falloir remplacer certainement pour certaines. Donc, vraiment, oui, un gros boulot. Et ensuite, pour la finition, on va dire extérieure, c'est de refaire les enduits qui étaient des enduits à la chaux, quoi. Et ensuite, restera effectivement à aménager l'intérieur tel qu'on suppose qu'il était.
Vous avez été en contact avec la Fondation du patrimoine. Quel retour avez-vous eu, Monsieur Duport, président de l'association ?
Donc pour le moment, on a d'excellents retours, mais ça ne reste que de l'administratif. Donc là, forcément, nous sommes dans l'attente d'une réponse quant à la souscription de dons qui doit intervenir suite à leur décision. Donc il faut être patient. Malheureusement, c'est comme ça, ça ne va pas vite, mais ça va le faire.
Parce que avoir des contacts avec la Fondation de France, c'est peut-être aussi glisser quelque part sur un classement au monument historique, c'est ça ?
On a eu un contact avec donc, un délégué départemental de la Fondation du patrimoine qui est venu sur place et qui a fait comme moi, qui est tombé fou devant ce bijou et qui a cautionné tout de suite notre projet. Il a fait passer ça donc, à Aurillac, à l'UDAP, l'Union départementale de l'architecture et du patrimoine, qui a retenu le projet dans la foulée. Ce n'est plus à Aurillac, c'est à Clermont-Ferrand maintenant de prendre la décision.
En attente de retour à présent.
Voilà, c'est ça.
Afin de récolter des fonds, vous organisez quand même des manifestations autour de ce trésor du XVIIe siècle, comme celle proposée le 30 août prochain. C'est une matinée champêtre. Expliquez-nous un petit peu la destination de cette organisation-là.
Donc la destination de la manifestation du 30 août, en fait, est pour faire vivre l'association, parce que l'association a des charges, forcément. Donc s'il y a de l'excédent, il sera réinjecté dans les travaux, bien évidemment, mais c'est pour mettre donc en avant aussi notre projet et bien en parler autour du monde des Champagnacois et autres.
Vous organisez un repas à partir de midi, c'est 20 euros par personne, voilà, il y a un apéritif gourmand, ben, je dis le menu, hein, c'est un peu le but de notre radio. Il y aura cuisse de canard, truffade, pâtisserie, vente de pain et truffade, 6 euros pièce, ça c'est de 8h à midi, hein, il me semble. Et réservation par contre avant le 20 août, c'est bien cela ?
Oui, avant le 20 août, et là on y tient parce que bon, après il y a toute une logistique à mettre en œuvre et on ne peut pas dépasser ces dates-là.
Voilà, soutenez donc l'association de sauvegarde du pigeonnier de la Vendesse, allez rencontrer les membres de l'association pour cette matinée champêtre le samedi 30 août au four de Prodel-le-Bas. Alors, outre les opérations de sensibilisation que l'association sauvegarde du pigeonnier de la Vendesse réalise, à noter que toutes celles et ceux qui nous écoutent peuvent faire un don de façon à contribuer à la restauration de ce patrimoine bâti sur Champagnac. Pour cela, rendez-vous sur le site Hello Asso. Allez, je vous l'épelle. H-E-2-L-O Asso. A-2-S-O. Et dans l'onglet de recherche de ce site, tapez, vous verrez, c'est facile, sauvegarde du pigeonnier de la Vendesse et laissez-vous guider. On peut sans doute également vous contacter pour venir prendre des renseignements ou toute autre info, monsieur le président.
Oui, bien sûr, moi-même ou le trésorier, donc nous sommes prêts à recevoir tous les gens qui voudraient avoir des infos et qui voudraient participer,
contribuer
à cet effort, de cet élan de solidarité, oui.
Allez, partez à Champagnac, dans le Cantal, vous imprégnez de cette pépite patrimoniale, le pigeonnier de la Vendesse, qui depuis 1670 trône fièrement au-dessus de la Dordogne en direction de Cérandon. Un fascinant voyage dans le temps. Il date de l'époque de Louis XIV tout de même.
C'est ça, donc 1670, et c'est vrai que quand on parle de Louis XIV, on arrive à situer un peu mieux l'emplacement dans l'histoire.
C'est grâce à Louis XIV que Versailles a pris corps. Donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 3 siècles et demi qu'il trône au-dessus de la Dordogne sur la commune de Champagnac. Et je rappelle que l'association de sauvegarde organise le 30 août prochain une matinée champêtre, on le dit et on le redit encore, au four de Prodel-le-Bas, histoire de venir rencontrer les membres de cette belle association qui se sont lancés dans cette magnifique aventure. Messieurs, le mot de la fin, il vous appartient. Monsieur Duport, président de l'association.
Il y aurait plein de choses à dire sur le pigeonnier, donc on sera quand même limité dans le temps. On veut remercier tout le monde, notamment bien sûr les médias, les collectivités qui petit à petit vont finir par s'engager aussi dans ce projet, la Fondation du patrimoine bien sûr, et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui voudront bien participer. On les attend avec joie.
Et monsieur Lafarge, peut-être cette question, au mois de septembre, ce sont les journées du patrimoine, ce sera l'occasion de venir également le découvrir, ce trésor.
Oui, on va certainement organiser des petites balades, disons, pour aller jusqu'à ce pigeonnier, puisqu'il faut très bien traverser à quelques champs, et on ne peut pas divaguer n'importe où, hein, donc ce sera bien organisé. Mon cours, ce n'est pas finalisé, mais enfin, il est certain que ce jour-là, on va essayer de faire découvrir ce colombier, et puis d'en donner le maximum d'explications, et en tant que trésorier aussi, ce que je souhaite, c'est que ça ramène un maximum de monnaie, si on peut dire, et donc Donc on a également des cartes de membres en vente au prix de 15 € pour les gens qui souhaiteraient donc se rallier à nous.
Voilà, se rallier à nous. Merci messieurs, merci mille fois pour votre belle aventure. Merci d'être venu nous la raconter. À bientôt sur les ondes de RBA.
Merci encore.
Merci à vous.
RBA FM, Auvergne, Limousin.